Bonjour, c'est Marie Lalande au micro d'Imagémon à voix haute, épisode du 15 octobre 2023. Pendant la prochaine heure, on parle avec des gens qui font et qui lisent la littérature jeunesse. Aujourd'hui, en seconde partie d'émission, je reçois l'autrice et éditrice Nadine Robert. Mais d'abord, en première partie, on rencontre David Bessette, un enseignant de cinquième année de la région de Sherbrooke, et quelques-uns de ses élèves qui vont nous parler de livres dont vous êtes le héros, qu'ils ont lu et qu'ils ont écrit. On retrouve aussi avec plaisir en studio Marie Barguirgian de On a tous besoin d'histoire. Dans sa chronique d'aujourd'hui, Marie B. nous présente la lecture comme un moyen de développer l'empathie. Et cette année encore, on fait des liens avec les actualités littéraires et les événements littéraires qui se vivent près de chez vous ou un peu plus loin. Alors, on terminera avec les actualités rares. Encore une fois, tout plein de livres et de choses à découvrir sur la littérature jeunesse pour les jeunes.
Dis-moi ce que tu lis.
Dis-moi ce que tu lis, c'est le moment de l'émission où on rencontre des gens qui lisent les livres jeunesse. Aujourd'hui, via Zoom, on reçoit David Bessette et quelques-uns de ses élèves, des élèves de sa classe de cinquième année, Romy Blais, Éloi Osborne, Léa Otis et Émile Tremblay. Bonjour à vous tous.
Allô.
Bonjour. Salut,
bonjour.
David, on va commencer avec vous. Vous enseignez à l'école Notre-Dame du Rosaire à Sherbrooke. Vous y êtes depuis longtemps?
Ça fait 15 ans que je suis ici, à peu près.
Non, 15 ans, c'est bon, ça. Qu'est-ce qu'elle a de particulier, l'école Notre-Dame du Rosaire, David?
Ce qui m'a attiré là, moi, j'aurais pas pris un poste ailleurs. Je savais que c'est là que je m'en allais, puis j'étais prêt à attendre longtemps pour ça. C'est vraiment la pédagogie ici qui est très, très, très allumante. J'ai senti tout de suite, quand je faisais des petits contrats à du Rosaire, que les profs ici, on ne peut pas juste rester asseoir sur notre vieille pédagogie et nos anciennes pratiques. On est toujours en train de se renouveler et de se questionner. Il y a une effervescence que j'adore.
Puis ça, en c'est plus, stimulant.
C'est vraiment stimulant. Puis l'école est juste au pied d'une petite montagne dans laquelle je peux amener mes élèves faire de la classe en plein air. On a une belle... Une belle culture de livres. La littérature est super importante dans notre enseignement. On s'est débarrassé des manuels, ça fait très longtemps. On enseigne sans ça. Fait que c'est vraiment un milieu extraordinaire pour un prof qui a envie d'enseigner différemment.
Donc, c'est un milieu urbain parce que vous êtes dans Sherbrooke, mais vous êtes tout près de la nature.
Exact. C'est vraiment le meilleur des deux mondes.
Ah, c'est magnifique, ça. Et si on demandait à un de vos élèves ce qu'elle a de spécial votre classe, qu'est-ce qui la distingue d'une autre classe? Qu'est-ce qui a le goût de répondre à ça? Tiens, Émile, allons-y avec toi.
On a une géante bibliothèque, genre avec vraiment full des milliards de livres. Puis, on a aussi des genres d'escaliers où est-ce qu'on peut lire dessus.
Oh, vous avez un escalier dans la classe?
Ouais, où est-ce qu'on peut lire dessus.
Ouais.
Puis, il y a aussi en dessous qu'il y a plein de mangas.
OK.
Puis il y a aussi une place qu'on peut lire. Puis sur les escaliers, il y a plein de petits messages d'auteurs.
Ah, wow! Ça, c'est ce qui fait la particularité de votre classe. C'est vraiment une belle classe. En tout cas, moi, j'y suis allée pour visiter. Puis c'est vraiment une classe où on se sent bien, vraiment. David, est-ce que vous êtes un enseignant qui avait toujours aimé lire?
Je pensais que non quand j'étais jeune.
OK.
Tu m'avais posé la question quand j'étais au primaire, j'aurais dit non, moi je déteste lire. Pourtant, je lisais énormément des bandes dessinées. Mm. Mais la façon dont mes profs présentaient ça, ça comptait pas comme de la vraie lecture. Mm-hmm. Puis bon, de devoir être évalué toujours sur les romans que je lis, de pas pouvoir passer au prochain roman tant que j'ai pas eu tout bon sur mon petit questionnaire. Tout ça, ça a étouffé pour moi l'amour du livre, qui heureusement est revenu plus tard grâce à la bande dessinée qui m'a tranquillement amené vers d'autres choses.
Oui, parce qu'on va le dire, hein, la bande dessinée, C'est de la lecture. C'est complexe, beaucoup plus complexe qu'on pense lire des bandes dessinées. Faut lire le texte, faut lire dans les phylactères, faut lire l'illustration aussi. Il y a plein de choses qui se passent dans les illustrations et dans le texte. Il y a des allers-retours. C'est pas mal plus complexe que la réputation que la bande dessinée peut avoir. Et on l'a annoncé en début d'émission, vous et vos élèves, vous avez lu et vous avez écrit des livres dont vous êtes le héros. Moi, j'aimerais savoir, David, comment vous avez présenté ce genre particulier à vos élèves?
Bien, je voulais commencer l'année avec ça parce que le livre dont vous êtes le héros, c'est fantastique pour faire des choix, réfléchir sur ce qu'on a lu, devoir faire des rappels pour comme, déterminer les prochains choix qui s'en viennent. Puis aussi, ça rend le roman très accessible parce qu'un livre très volumineux, tu te rends compte que tu peux passer au travail rapidement, tu sais, parce que tu n'es pas tous les paragraphes, tu fais des choix.
Ah, c'est ça. C'est pas obligé de tout lire dans un livre dont vous êtes le héros, c'est ça?
Non, c'est ça. Puis pour répondre à ta vraie question, la façon dont je l'ai amené, c'est j'ai commencé par en lire un avec la classe. C'est un livre de la collection Défis fantastiques. C'est le Manoir de l'enfer. Manoir de l'enfer qui est un livre que les élèves aiment particulièrement parce que dans un contexte moderne, un peu horreur, c'est de Steve Jackson.
Oui.
On a lu ça ensemble. Et puis, je projette au tableau un plan du manoir. Puis au fur et à mesure qu'on l'explore, le plan il se développe. Puis ensemble, on fait des choix. Fait que là, les jeunes tombent en amour un peu avec ce style-là. C'est excitant, c'est stressant. Puis une fois qu'ils ont découvert le genre, ben là, j'ai mis sur les tables plein de livres dont vous êtes le héros par type. Donc des vieux livres de défis fantastiques, des livres plus modernes comme Ta vie de YouTubers, comme 30 secondes pour survivre, vraiment plein de sortes et de types. Puis là, en atelier, ils se promenaient puis ils exploraient chacun des genres. Puis après ça, un peu dans une espèce de cercle littéraire, ils pouvaient discuter, parler de leurs préférences, tout ça. Et éventuellement, maintenant, ben, on est en train d'en écrire un nous-mêmes.
Donc, chaque élève écrit un livre. On va reparler de ça tout à l'heure avec vos élèves. J'aimerais donc qu'on donne la parole à vos élèves. Moi, j'aimerais les entendre à propos des livres dont vous êtes le héros qu'ils ont lus. Alors, on va commencer avec Romy, si tu veux bien, Romy. Qu'est-ce que c'est le livre dont vous êtes le héros que tu as lu, toi, Romy?
Moi, le livre que j'ai lu, c'est Ta vie de YouTubers de Valérie Fontaine.
OK. Puis qu'est-ce que tu peux nous en dire?
Ben, Ta vie de YouTubers, c'est un livre d'une fille qui part sa chaîne YouTube. Puis c'est ça, fait que c'est toi qui es le héros de ce livre-là. Fait que c'est comme si vraiment c'était toi qui partais cette chaîne-là.
OK, d'accord. Donc, à part sa chaîne YouTube, et tu as des décisions à prendre?
Oui.
Qu'est-ce que tu as aimé, toi, dans ce livre-là, Romy?
Moi, ce que j'aime de ce livre-là, c'est que c'est un défi à ma pointure. Vraiment, il n'y a pas trop de texte, c'est aéré, puis ça peut durer longtemps comme ça peut durer vraiment pas longtemps.
Non, c'est ça. Puis ça a été ton cas. Hein. Tu me disais ça la dernière fois qu'on se parlait. Toi, tu as été comme éjecté rapidement de cette lecture-là parce que tu as fait des choix qui t'ont amené rapidement à la fin, c'est ça?
Oui, vraiment.
C'est bon. Et donc, Éloi, tiens, passons à Éloi. Éloi, toi, tu as lu un livre dont vous êtes le héros. Est-ce que tu veux nous en parler? Qu'est-ce que c'est, ce livre-là?
Moi, en fait, c'est le livre 30 minutes pour survivre.
Ah,
c'est
oui.
le manoir de la mort,
oui.
Ou le danger road.
Ou le danger quoi?
Ou le danger road.
Ah, oh, d'accord.
Et... c'est cool parce que t'as 30 minutes pour survivre. C'est un peu un autre contexte. Puis c'est plus stressant, c'est plus difficile. Puis c'est captivant et il y a beaucoup de détails.
Il y a beaucoup de détails. C'est pour ça que t'as aimé ça? C'est ça que t'as aimé, toi? Qu'est-ce que t'as aimé particulièrement dans ce livre-là?
C'est les détails, les choix et c'est pas mal ça.
Les détails dans les descriptions, ça veut dire que tu peux t'imaginer facilement ce que tu es en train de lire. Puis est-ce que le titre a un lien avec ce qui se passe dans le livre? C'est 30 minutes pour survivre. Est-ce qu'il faut vraiment que tu mettes un chronomètre puis que tu te dépêches avant que le 30 minutes soit fini?
Non, pas vraiment, parce que tu peux, selon les choix, il peut te rester du temps. Comme si tu choisis d'aller monter la montagne, ça peut te dire qu'il te reste environ 28 minutes.
OK, donc tu sais, dans le livre, selon les choix que tu fais, il va te rester plus de temps ou moins de temps pour accomplir le défi. Ah, je
Ouais,
comprends
c'est ça.
bien. Ah, mais ça, c'est vraiment stimulant. Toi, Éloi, est-ce que tu avais pensé en lire un petit bout?
Ben, ça va être compliqué parce que j'ai pas le livre
Ah,
sur
ouais.
moi en ce moment.
Ça, c'est effectivement très compliqué. Lire un petit bout sans le livre, ça marche pas. Alors, et c'est parfait, Éloi, je te remercie beaucoup. Ça nous donne déjà deux suggestions de lecture. David, je vais revenir vers vous. On avait dit toi hein, aussi, puis là, j'ai commencé en vous. Je suis toute mêlée. Passons du vous au toi. Je reviens vers toi. Tes élèves ont lu des livres dont vous êtes le héros, mais ils en écrivent aussi. Moi, je voudrais que tu nous expliques comment tu fais les liens entre lecture et écriture.
L'inspiration m'est venue d'un de mes élèves qui aime beaucoup dessiner et il m'a demandé s'il pouvait dessiner une grande carte pour afficher dans la
Une
classe. Une
carte
carte un peu
géographique, là.
géographique de style qu'on voit dans les romans fantasy, tu sais, de merveilleux.
Ouais.
Fait que j'ai dit, ben oui, là je suis parti de là, j'ai dit, mon élève veut faire une carte, on va faire l'univers social avec ça, la rose des vents, on va regarder les titres, la légende. Donc les élèves ont fait une carte avec cinq continents. Et ces cinq continents-là représentent cinq défis. Et en écriture, je voulais travailler avec eux les petits moments.
OK.
Donc, chaque continent représente un petit défi relié à nos petits moments.
Des petits moments, je veux juste te couper la parole, David, pour préciser, parce que c'est un langage que nous, on comprend, là, les enseignants. Les petits moments, c'est une façon. Est-ce que tu pourrais nous expliquer qu'est-ce que c'est les petits moments rapidement?
C'est de choisir vraiment un instant. Pas une suite de péripéties, mais vraiment un moment et de le faire vivre en profondeur au lecteur, comme si, comme nous, on l'a vécu
Quelque chose
ou
qui
comme
vous
nous, on imaginait
arrive. C'est ça.
la
OK.
chose. Donc, on est vraiment dans le détail.
D'accord.
Puis, donc, la carte est affichée sur un immense coffre dans la classe qui s'ouvre avec cinq clés.
OK.
Et quand ils vont avoir réussi les cinq défis d'écriture reliés à nos petits moments, ils vont être capables d'ouvrir le coffre de la littérature et de voir les trésors qui se cachent à l'intérieur. Puis, tout ça est lié avec le livre dont vous êtes le héros parce que nos petits moments doivent inclure des choix.
Ah.
Donc, voilà. Et puis, j'ai deux élèves qui sont très, très prêts à t'en parler, si tu veux.
Oui, j'ai hâte. Ben oui, on va leur donner la parole vraiment, vraiment tout de suite. Alors, on revient. Tiens, commençons par Émile. Émile, tu veux nous parler donc de ce que tu as écrit, toi, dans ton
Ouais.
livre dont vous êtes le héros. Là, je ne veux pas que tu nous donnes trop de surprises, tu sais, mais qu'est-ce que tu peux nous en dire de ce que tu es en train d'écrire?
Ben, c'est genre que t'es dans un manoir.
Oui.
Puis là, ben, t'arrives devant une salle. Puis là, t'as un choix. Tu peux aller dans la salle ou genre revenir sur tes pas. Mais tu sais, j'ai pas tout à fait fini là, mais je peux quand même lire
Ben oui, tu veux-tu nous en lire un petit bout?
là. Ok.
Ah oui, ah, t'étais
Je
prête, hein? T'as ton cahier d'écriture, parce que vraiment, t'es comme un auteur, vraiment, t'as ton cahier dans lequel t'écris. C'est magnifique, je t'écoute.
Tu cours avec ta clé que tu as volée du sanguinaire dragon cracheur de poison. Tu arrives devant cette salle. À côté du cadre de porte, il y a deux énormes statues de gargouilles. Ces statues sont un peu inquiétantes. Tu essaies de regarder par la fenêtre qui est sur la porte, mais le couloir est trop obscur et étroit pour que tu puisses voir par la fenêtre. La porte est barrée, mais tu as la clé. Alors, tu as deux choix. Soit tu vas dans la salle ou revenir sur tes pas.
Wow! Hey, là, fait que là, soit tu vas de l'avant, soit tu reviens en arrière. Hey boy.
Ouais, c'est ça.
D'accord. Écoute, on va passer à Léa parce que là, moi, j'aurais le goût de continuer avec toi parce que, tu sais, j'aimerais ça te dire quel choix moi j'aurais fait, puis où est-ce qu'on irait après, mais on va donner la parole à Léa parce que Léa aussi veut nous parler de ce que tu es en train d'écrire. Qu'est-ce qu'il y a dans le livre dont vous êtes le héros que toi tu écris, Léa?
Ben, dans le fond, c'est que tu es enfermé dans un labyrinthe avec plein d'ennemis qui essaient de te tirer dessus.
Oh.
Puis là, il y a deux couloirs, puis tu dois prendre le bon parce que sinon tu vas te faire tirer dessus.
OK. Puis toi, est-ce que tu voudrais nous en lire un petit bout?
Oui, je peux.
J'aimerais beaucoup ça.
Alors, vite, l'ennemi arrive. Tu commences à courir dans tous les sens dans le grand labyrinthe. C'est sombre malgré les flots. Tu entends des pas énergiques derrière toi. Ils arrivent. Tu entres dans un bouchon. Il y a deux couloirs, un plutôt sombre et un assez lumineux. Lequel choisis-tu? Le couloir lumineux? Rends-toi au 2 et pour le sombre, rends-toi au 3.
Oh mon Dieu, moi je me rendrais au 2, Léa. Parce que moi je préfère la lumière que l'obscurité. Oh wow! Romy, dis-moi donc, Romy, toi, est-ce que tu as écrit aussi quelque chose?
Oui, moi j'ai écrit quelque chose.
Puis qu'est-ce qui se passe dans ce que tu as écrit, toi?
Ben moi, je parle de mon chien qui est maintenant décédé.
Ouais.
Et je fais un petit moment avec ça, puis il y a comme deux options. La première option, ça va être que je la laisse partir et qu'elle s'en... C'est ça. Puis la deuxième option, ça va, c'est qu'on va trouver un moyen pour qu'elle reste avec moi.
Puis qu'elle reste en vie. Oh mon Dieu.
Exactement.
Seigneur. Puis est-ce que tu permets au lecteur de faire des choix aussi?
Oui, mais j'ai vraiment pas beaucoup avancé. Ça m'a pris beaucoup de temps pour réfléchir.
Oui.
J'ai vraiment juste deux petits paragraphes.
Oh, mais est-ce que tu peux nous lire ça?
Évidemment. Ton chien a une maladie grave depuis sa naissance et a seulement 2 ans, c'est bientôt la fin de son histoire. C'est une maladie rénale, une malformation. Cette maladie fait qu'elle est beaucoup plus petite que la moyenne. C'est comme si elle reste bébé pour toujours. C'est mignon, mais c'est pas très marrant.
Ah, oh, wow, on aimerait, je t'encourage à écrire la suite parce que ça va être intéressant, vraiment. Puis toi, Éloi, toi aussi, tu as écrit quelque chose. J'aimerais ça que tu nous en parles un petit peu. Qu'est-ce qui se passe dans ce que tu as écrit?
Dans le fond, tu te promènes avec ton frère, puis tu vois un parc un peu sombre. Donc, tu décides d'y aller, puis après, tu vois une patinoire. Ensuite, tu vois une espèce de trace, donc tu la suis. Ou tu t'enfuis, puis après... Ouais.
Après, on est rendu là, c'est ça?
Après, on est rendu là, ouais.
Ouais, d'accord. Est-ce que tu voudrais nous en lire un petit bout, Éloi?
Oui.
Ah, oh, j'aimerais plaisir. Ça. On t'écoute.
Tu te promènes avec ton frère et tu vois un parc. Le parc est sombre et lugubre. Il y a un vieux lampadaire fracassé qui clignote. Toi et ton frère, allez dans ce parc. À la base, vous vouliez patiner, mais vous dites que ce n'est pas grave. Tu regardes autour et tu vois une patinoire. Donc, tu cours pour y aller. Tu vois une trace rouge éclatante à la lumière de la lune. Ton frère te rattrape. Il voit la même trace que toi. La trace est rouge et longue. Ton cœur accélère et ton frère te rassure. Tu as peur. Vous avez deux choix. Premier choix, s'enfuir. Ou deuxième choix, suivre la trace.
Wow! Moi, ce que j'aime, là, puis ce que je remarque dans vos quatre, ce que vous avez écrit... C'est qu'il y a du vocabulaire riche, il y a des mots intéressants qui nous font ressentir comment on se sent à l'endroit et au moment où on se trouve. Puis ça, c'est une force d'auteur, je vous félicite. Vous nous donnez le goût, en tout cas, de lire ou de relire ce genre-là. Moi, je voudrais vous dire merci. Merci à vous quatre. Merci, David, pour le dynamisme, pour les idées que tu mènes à terme, pour l'autonomie, l'initiative que tu permets à tes élèves de développer dans ta classe et dans la nature. Et puis, je remercie Romy Blais, Éloi Osborne, Léa Otis, Émile Tremblay. Au plaisir. Puis, continuez de lire et d'écrire. C'est formidable ce que vous faites. Merci beaucoup. Au revoir.
Au revoir.
Au revoir. Au revoir.
Merci.
Au revoir.
Je m'appelle Gertrude, j'ai 12 ans. Mon livre préféré est dans « Vous êtes les héros, le seigneur de l'ombre ». Parce que j'aime l'histoire pleine d'action, comme une bataille contre les squelettes.
La chronique de Marie Barguirdian.
Bonjour Marie Barguirdian.
Bonjour Marie-Lalande.
Très, très heureuse de vous retrouver. Pour le bénéfice des auditeurs, j'aimerais prendre le temps rapidement de vous présenter. Vous êtes autrice, animatrice et conférencière en art et en littérature jeunesse, passionnée de l'enfance, d'éducation et de culture. Et nous avons la chance de vous recevoir régulièrement à l'émission comme chroniqueuse sur des thèmes qui vous tiennent à cœur. Aujourd'hui, vous nous parlez de la lecture pour développer l'empathie. On vous écoute, chère Marie.
Merci, merci Marie de cette présentation. Voyez mon grand sourire qui vous indique la joie que j'ai de participer à cette émission.
Oui, on l'entend, le grand sourire aussi.
Dans le manifeste, on a tous besoin d'histoire. Souvenez-vous, j'ai identifié différentes propositions pour montrer combien lire peut nous enrichir humainement parlant, disons. Au fond, je dirais que le fil conducteur de ces propositions, on a tous besoin d'histoire pour se sentir moins seul, parce qu'on a besoin de miroir, de transmission, etc., c'est l'empathie. Car oui, lire développe l'empathie. Bien sûr, nous ne lisons pas pour cela. Nos motivations sont diverses. On lit pour se distraire, pour apprendre, étudier. Ça dépend du genre d'ouvrage. Mais des recherches ont prouvé que la lecture de fiction a des effets positifs sur l'être humain, entre autres notre capacité d'empathie. C'est valable pour les enfants et pour les adultes. J'ai donc fait quelques recherches sur l'empathie, un mot qui, je ne sais pas si tu le savais Marie, mais n'apparaît dans la langue française qu'autour de 1950.
Quand même.
Étonnant, non ?
Oui.
Eh oui, c'est pas si vieux. Et qu'est-ce que c'est ? Bien, c'est la capacité de s'identifier à autrui dans ce qu'il ressent. Autrement dit, l'empathie nous permet de voir les choses du point de vue d'autrui plutôt que d'une autre. J'ai aussi appris qu'il y avait deux sortes d'empathie. L'empathie cognitive, le fait de simplement savoir ce qu'une personne ressent et ce qu'elle pense, et l'empathie émotionnelle. Alors là, c'est quand vous vous sentez physiquement en phase avec quelqu'un, comme si ses émotions étaient contagieuses.
Ah oui.
C'est une qualité essentielle qui favorise évidemment les relations sociales et professionnelles, qui développe la conscience de soi et au-delà, contribue évidemment à un monde plus juste et peut-être plus en paix, j'allais dire.
Oui.
Quand on raconte une histoire à un enfant, il y a un phénomène de transposition, vous savez Marie, l'enfant se met à la place du personnage, il est amené à comprendre ce que ressent ce personnage, il vit sa peur, sa joie, son étonnement. Mais la véritable richesse de la littérature et de la fiction, c'est qu'on arrive à être empathique même envers des personnages qui nous sont très éloignés, très différents, même qu'ils ne vivent pas à une même époque que nous.
Oui.
Par exemple, je vais penser à Vieux Thomas. Je prends souvent l'exemple de Vieux Thomas, mais c'est parce que tout le monde le connaît.
Vieux Thomas et la petite fée.
De Dominique de Mers, illustrée par Stéphane Poulin. Bon, on pourrait croire qu'il est difficile pour un enfant de ressentir les émotions d'un vieillard. Et pourtant, à la lecture de ce livre, bien l'enfant partage son sentiment de solitude, son émerveillement aussi devant la petite fée, son affolement quand il pressent le danger.
Oui, oui, parce qu'il a peur de la quitter, qu'elle le quitte.
Qu'elle le quitte, il a peur de l'abandon, il y a beaucoup de choses derrière tout ça, on le sait. Autre exemple que je prends souvent, Chien bleu, mais c'est parce que tout ça, c'est des livres riches qui nous permettent d'avoir un tremplin pour parler si bien de la littérature jeunesse. Combien d'enfants trouvent la maman pas gentille, comme on dit certains enfants, de ne pas vouloir de chien. Combien pressante que Charlotte va se perdre en forêt, ou ont peur que Chien bleu ne sorte pas vainqueur de son combat contre l'esprit de la nuit, ou peur que Charlotte ne retrouve pas ses parents.
Donc Chien bleu de Nadia.
De Nadia, merci de préciser, je vais trop vite. Allez, encore un petit exemple. Une autrice que j'adore évidemment, Marianne Dubuc, avec Je ne suis pas ta maman. Ça c'est intéressant. Parce que c'est un album où Otto, qui vit tranquillement dans son grand arbre, trouve un jour devant sa porte une drôle de boule verte avec des piquants. Cette boule devient un petit être poilu qui va grandir, 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 et la vie d'Otto est chamboulée, et on le comprend. En même temps, on a beaucoup d'empathie pour cette petite boule de poil qui ne retrouve pas sa maman. Notre empathie, voyez-vous, balance de l'un vers l'autre des personnages.
Et nous aide
à réfléchir. Et voilà. Et si la littérature pouvait nous aider à faire grandir cette capacité à écouter l'autre, à mieux le comprendre, ainsi que ce qu'il éprouve, à nous mettre à sa place, en jeu du miroir. Et justement, pour compléter mes petites recherches, j'ai lu qu'en 1991, ont été découverts les neurones miroirs, des cellules cérébrales qui s'activent lorsque nous voyons quelqu'un faire quelque chose. Souvenez-vous, quand on donne une petite cuillère à un bébé, on a tendance à ouvrir la bouche en même temps que lui. Et ben, c'est ça, les neurones miroirs. Et c'est pour ça que les enfants cherchent toujours notre regard parce qu'ils veulent nous imiter. Ainsi, l'empathie serait donc un caractère inné Certains tyrans la rangent dans une case de leur cerveau et deviennent totalement indifférents au monde qui les entoure. Nous en connaissons. Mais vraiment, lire des histoires est une façon d'avoir accès à la connaissance de l'espèce humaine autour des émotions et des sentiments qui sont communs à toutes, à tous. Au-delà, en comprenant mieux l'autre, on éduque à la non-violence. C'est formidable. On est dans notre fauteuil et notre empathie pour les personnages nous permettent de vivre pleinement ce qu'ils ressentent, même à l'autre bout de la Terre ou à une autre époque.
C'est formidable, ça. Tout ça grâce au livre. Merci, Marie. Moi, je voudrais profiter de votre présence pour vous dire le grand, grand plaisir que j'ai ressenti à la lecture de votre dernier album, Marie.
Ah, comme c'est gentil!
Oh oui, puis ben, j'en parle parce que d'abord, il paraît ce mois-ci. Ça s'appelle « La pyramide de Nola ». C'est publié chez Deux et c'est illustré par Claude K. Dubois. C'est un album tout en douceur, en nuances, autant dans les couleurs et la douceur que Claude K. Dubois peut transmettre, qu'elle apporte, oui, que dans l'histoire de cette petite fille que personne ne comprend dans son besoin d'imaginaire. Tout le monde veut régler, veut construire à sa place. Tout le monde pense qu'elle fait un château, mais non, elle, ce qu'elle fait avec son toutou, c'est une pyramide. Alors, on ne dira rien de la fin parce que c'est un formidable clin d'œil aux parents qui savent être empathiques et écouter les besoins de cette petite fille. Alors, vraiment, je vous remercie pour cet album-là qui est très, très beau. On va mettre sur le site de l'émission les liens vers ce titre-là, vers ceux que vous avez mentionnés aussi. Alors, on se retrouve très bientôt pour une autre chronique, Marie. Merci beaucoup.
Merci, Marie.
Au grand plaisir.
À bientôt, oui. Au plaisir.
Je m'appelle Joao, j'ai 11 ans. J'aime beaucoup les livres d'Eiichiro Oda avec sa série de manga One Piece car l'histoire est captivante, il a du suspense, c'est vraiment cool et ça me fait rêver. Je m'appelle Luca, j'ai 10 ans, ma série préférée où on est les héros, c'est 30 minutes pour survivre. Parce qu'il faut faire des choix pour survivre.
Je m'appelle Anne, j'ai 10 ans. Et j'aime lire les livres dont vous êtes le héros parce que c'est toi qui décides l'histoire.
Je m'appelle Alexandre, j'ai 10 ans. J'aime les livres dont vous êtes le héros parce qu'il y a de l'action et on ne sait jamais ce qu'il va se passer.
Restez avec nous. En deuxième partie d'émission, je reçois l'autrice et éditrice Nadine Robert. Et il y aura des actualités littéraires. On revient dans 2 minutes. À tout de suite. Bienvenue en deuxième partie d'Images et mots à voix haute. On a reçu tout à l'heure un enseignant et 4 de ses élèves pour qui la nature est essentielle. Maintenant, on prend le temps de parler avec une autrice et une éditrice pour qui ça l'est tout autant.
Dans les coulisses du livre.
Dans les coulisses du livre, c'est le moment de l'émission où on rencontre des gens qui font les livres jeunesse. Bonjour Nadine Robert.
Bonjour Marie.
Bienvenue à Images et mots à voix haute.
Merci pour l'invitation.
Nadine, je vous propose de faire un tour de vie en débutant un petit peu comme quand on prend l'autobus, quand on fait une petite visite rapide dans une nouvelle ville. Alors on fait un tour de vie. D'accord. De votre vie. Donc, vous avez un bac en littérature, une maîtrise en éducation. Vous avez exercé les métiers d'animatrice en bibliothèque, de conceptrice de jeux vidéo et puis de scénariste de films d'animation.
Exact.
Vous abordez le milieu de l'édition à la courte échelle avant de cofonder en 2014, donc ça va faire 10 ans, les éditions Comme des géants, dont vous devenez la présidente. En 2017, vous fondez la division Le Lièvre de Mars et puis en 2021, Milky Way Picture Books.
Oui.
La version anglaise de votre album Au-delà de la forêt, On the Other Side of the Forest, a été sélectionnée par le New York Times et la New York Public Public Library pour figurer parmi les 10 meilleurs livres illustrés de cette même année, donc toujours en 2021. Et votre album Trèfle, illustré par, et là, je sais que je ne prononce pas bien.
Chin, comme quand on fait chin-chin.
Chin-ling. Ça a obtenu le prix littéraire du gouverneur général en 2022, catégorie littérature jeunesse, livres illustrés, et le prix des libraires du Québec en 2023 dans la catégorie jeunesse 0-5 ans Québec. Bravo.
Merci.
Bravo pour merci, ça, merci. Notamment. Et comme quand on prend le bus dans ces nouvelles villes, quand on fait un tour de ville en début de visite, on choisit des endroits où est-ce qu'on veut retourner et prendre plus de temps. Alors, si vous voulez, Nadine, on va prendre le temps avec vous.
Volontiers.
Dites-moi, qu'est-ce qui prend le plus de temps dans votre vie? Est-ce que c'est votre travail d'autrice ou celui d'éditrice? Comment vous vivez avec les deux chapeaux?
Et c'est le travail d'éditrice. Peut-être que ça surprendra peut-être pas les gens du milieu qui connaissent,
le temps que ça prend
d'administrer une maison d'édition, parce qu'il faut savoir que, oui, la grande joie, c'est la collaboration avec les artistes pour créer des albums, mais c'est aussi un travail administratif qui n'est pas toujours sexy, là.
les
demandes de subventions et toutes ces choses-là. Alors oui, c'est vraiment le métier d'éditrice, mais j'y trouve mon compte parce que j'ai choisi quand j'ai démarré comme des géants, l'idée, c'était d'avoir une petite structure d'édition, de publier peu de livres pour pouvoir être impliquée à toutes les étapes.
OK.
Alors, c'était vraiment ça, ma vision. Comme vous l'avez dit, j'ai appris l'édition à la courte échelle, aux éditions de la courte échelle, où j'ai été tour à tour là, aux opérations, à la production, avant d'être directrice éditoriale jeunesse. Alors, j'ai passé par à peu près, j'ai appris en fait le métier, mais je me suis toujours, même si j'ai des connaissances et des compétences dans les opérations et la gestion, c'est vraiment le contenu qui m'a toujours... la flamme, elle vient là, du contenu, de créer les œuvres. Alors oui, le métier d'autrice, lui, il a toujours été là. C'est-à-dire que j'écris depuis que je sais écrire, je pense. Sauf que j'ai beaucoup attendu avant d'avoir, comme plusieurs auteurs, le courage d'envoyer un premier manuscrit dans une maison d'édition. Alors, c'est arrivé assez tard. J'étais dans la quarantaine, début quarantaine déjà, puis mes premiers albums sont parus aux éditions de La Pastèque. Et je travaillais comme directrice éditoriale.
En même temps.
Oui, à la courte échelle. Et quand on a choisi, parce qu'on était deux à l'origine, Mathieu Lavoie et moi, qui avons démarré comme des géants, il y avait vraiment cette volonté de faire petit. Parce que probablement, on venait d'une maison qui était... Bon, à l'époque, on publiait 120 parutions jeunesse annuellement. C'était
donc,
énorme.
Donc, de prendre le temps. C'était ça. Exactement. On revient à ça. Moi, j'aimerais qu'on parle... Vous avez parlé de votre premier ouvrage. J'aimerais qu'on parle de Trèfle aussi.
Oui.
Votre album primé, si doux, que j'ai ici, vous propose d'écouter un court extrait qu'on peut trouver sur YouTube, qui est produit par Biblio Vidéo. On vous entend en parler. On écoute.
J'ai toujours beaucoup aimé le conte pour ses codes, pour son cadre hors du temps. Souvent, dans les contes, il n'y a pas de loi, pas d'autorité. C'est un monde sans adultes. En fait, j'aime le conte pour la liberté qu'il me permet dans l'écriture. Je m'appelle Nadine Robert. Et j'écris des histoires qui sont souvent des contes. Trèfle, c'est l'histoire toute simple d'une enfant qui perd sa petite chèvre dans un bois et qui part à sa recherche. La particularité de mon personnage, c'est qu'elle a beaucoup de mal à prendre des décisions. Alors, les obstacles qu'elle va rencontrer dans sa quête, ce ne sont pas des loups ou des sorcières croisées sur son chemin. Mais c'est plutôt ses conflits intérieurs, ses hésitations et ses questionnements. Cet album, c'est aussi, surtout, une ode à la nature qui est un personnage central du livre, un personnage bienveillant, un refuge, aussi la nature comme symbole féminin et maternel, un symbole de grande force. Cette nature est magnifiée par le travail exceptionnel de l'artiste Chin Leng, qui a su donner vie à la forêt, à la rivière, à la montagne, avec ses belles aquarelles qui donnent un cadre enchanteur à l'histoire. Et je trouve qu'il reflète aussi toute la splendeur et la beauté de la nature.
Alors, vous dites dans ce texte-là que la nature est un personnage fort de l'album. C'est très, très juste. Mm-hmm. J'aimerais savoir, moi, quelle est la place que vous lui faites à la nature dans votre vie et dans vos livres?
Dans mes livres, je dirais qu'il y a une place importante, mais j'essaie, puisque je suis le genre d'artiste qui essaie toujours d'explorer de nouvelles choses et une démarche, dans le fond, de me renouveler continuellement, même si la nature est présente, elle n'est pas présente dans tous mes albums. Mm-hmm. Mais j'ai remarqué qu'aussi dans mes choix éditoriaux, souvent, je sélectionne des albums qui touchent de près ou de loin les thèmes liés à la nature. Ouais. Alors, c'est très, très important. Mais oui, c'est tellement important dans ma vie que récemment, j'ai acquéri une ferme, ferme en forêt qui ressemble étrangement à la ferme
d'entrée. Oui,
tout à fait. Oui. Et c'est un hasard total. Mais c'est quelque chose qui est arrivé assez tard dans ma vie. Jeune étudiante là, au bac et tout ça, j'étais très urbaine, j'aimais beaucoup voyager, j'aimais beaucoup me retrouver dans les grandes villes. Et tranquillement, dans la trentaine, juste à voyager plus près, là, faire des voyages plus en nature, c'est quelque chose qui est devenu très important et c'est l'endroit où je me sens le mieux.
Ah, ça, c'est
et même
bien.
Au niveau du travail créatif et de l'inspiration que ça peut procurer, la nature, je dirais... oui, pour moi, c'est une source d'émerveillement.
Là où est-ce qu'on se dépose?
Oui, on se dépose, mais en même temps, il se passe toujours quelque chose. Il se passe toujours quelque chose.
Oui.
Alors, c'est très important dans ma vie.
Alors, dans le livre, Trèfle, la petite fille, Trèfle, elle doit prendre des décisions, vous en avez parlé, elle doit faire des choix. C'est pas toujours facile. C'est ce que vous faites voir aux enfants, puis à la fin, vous proposez une morale. Assez explicitement, mm-hmm. Pour décider, il faut écouter la voix de son cœur. Pourquoi vous avez voulu que ce message-là soit écrit explicitement puis envoyé aux enfants?
C'est drôle parce que j'y ai songé longuement et j'ai demandé l'avis d'une amie, collègue, éditrice française sur cette finale-là. Parce mm-hmm. que pour moi, dans un premier temps, je trouve que ça se dégageait. Ça se reflétait dans l'histoire, on n'avait peut-être pas besoin de le souligner à la fin.
Oui.
Ouais. Sauf que cette éditrice m'a un peu confrontée à mes propres réflexions, si on veut, sur ce thème de la prise de décision, en me questionnant sur ce qui m'avait amené à écrire ça et pourquoi, et ce que j'en pensais personnellement. Parce qu'elle disait, en fait, ton intention, c'est de transmettre un peu... Ta vision ou l'aboutissement de ta propre réflexion sur comment on devrait, comme personne, prendre nos décisions. Mm-hmm. Puis elle dit, pourquoi tu le lances pas tout bonnement à la fin? Puis tu sais, puis j'y ai réfléchi, puis j'ai pensé que, je me suis dit, ah, puis il y a peut-être une belle façon poétique de tourner ça. Puis en fait, je vous dirais que Chin avait proposé cette image finale-là,
ouais.
qui est magnifique, où l'enfant tient une lanterne, justement, tu sais, pour éclairer un peu... C'est ça, dans le sens de trouver de la lumière, ou, tu sais, et j'ai choisi de le faire. Mais j'ai hésité. Je vais vous avouer que j'ai hésité.
Moi, je trouve en tout cas que c'est une bonne décision que vous avez prise. C'est pas trop lourd, c'est pas appuyé, ça fait pas prêchi-prêcha, pas du tout.
Ah, bon.
Moi, j'ai vraiment beaucoup, beaucoup aimé ça.
Alors,
parlons de ces trois maisons d'édition qui occupent votre vie. Et où vous faites les choses à votre manière, de manière très particulière, comme des géants, Le Lièvre de Mars et Milky Way Picture Books. En quoi chacune de ces maisons d'édition se distingue-t-elle?
Bon, parlons du Lièvre de Mars d'abord, parce que bon, là, il y a une ligne très, très claire. Hein? Le Lièvre de Mars est venu de cette envie de, donner une seconde vie à des œuvres qui ont déjà existé et qui sont soit épuisées, indisponibles. Bon, la plupart, c'était comme des œuvres épuisées.
Oui.
Puis C'est, je trouve, la grande tristesse de l'édition, c'est que les livres ont souvent une durée de vie.
Ils disparaissent
ils
vite.
Ils disparaissent.
Hein? Oui, mon Dieu,
certains
dommage,
plus vite que d'autres, oui. Mais ils disparaissent vite. Mais pourtant, les œuvres sont souvent, d'un point de vue littéraire ou artistique, très légitimes, puis c'est triste. De... Oui. Bon, et puisque je collectionne aussi beaucoup les albums jeunesse, spontanément, je me suis dit, ce serait chouette de trouver une façon de faire revivre certains titres. Alors, le livre de Mars, c'est ça. Ce sont toutes des histoires qui ont existé, soit issues de la tradition orale et du conte, par exemple, ou des titres publiés des, 60 dernières années, et même, il y en a certaines encore plus vieilles, là. Alors, c'était ça. L'idée, c'est ça. Puis, en fait, c'est de faire redécouvrir aux jeunes lecteurs, c'est ça, des œuvres qui sont pertinentes, et des fois aussi...
Et qu'on ne trouve plus.
Et donc. Qu'on ne trouve plus, et aussi de faire découvrir des voix d'ailleurs. Alors, il y a aussi cette volonté d'aller faire connaître un artiste, un créateur-auteur japonais, par exemple, et voilà. Alors, c'est ça. Tandis que Milky Way Picture Books et Comme des géants se ressemblent. D'ailleurs, à peu près la moitié des titres publiés chez Comme des géants, maintenant, je vais les faire dans la division de langue anglaise Milky Way Picture Books. Alors là, la sélection, elle se ressemble. À part certains titres qui, pour moi, parce que comme éditrice, en fait, je constate qu'il y a des préférences culturelles là, au niveau de la littérature jeunesse aussi, c'est assez marqué. Alors, je sais que certains titres que je publie chez Comme des géants sont peut-être trop audacieux ou conceptuels pour le marché américain, quoiqu'il y aura toujours un lectorat pour chacun des albums publiés. Mais ils se ressemblent davantage, mais certains titres sont sélectionnés exclusivement pour le catalogue de Milky Way.
Et qu'est-ce qui vous fait choisir? Vous avez tantôt parlé de la nature, donc pour faire des choix d'éditrice. Qu'est-ce qui vous fait choisir un texte ou un auteur ou une autrice?
Je pense que toujours, ça c'est difficile, mais je pense que c'est la bonne histoire.
Ouais.
Et parfois, c'est la bonne idée. La bonne histoire, ça va de soi. C'est-à-dire que dans mes lectures, dans tout ce que je recherche, même dans ma démarche à moi, je pense que l'écriture, c'est le partage. C'est le partage d'une histoire. On a envie de partager avec des gens une histoire. Alors, ça, c'est ce qui me touche en premier lieu, une bonne histoire. Ensuite, c'est difficile. Ce sont des coups de cœur. Parfois, ça peut être la thématique. Mais il faut d'abord et avant tout souvent m'accrocher par l'histoire.
Il y a l'émotion aussi.
L'émotion, c'est vrai aussi.
Ouais.
L'émotion, mais bien dosée aussi. En fait, c'est toujours plus facile pour moi de dire ce que j'aime moins que ce que j'aime. C'est-à-dire que souvent, les approches plus pédagogiques ou les approches, peut-être très humoristiques, je ne suis pas du tout fermée au titre plus humoristique, là. Mais je dirais que oui, c'est ça. Des fois, c'est ce que j'aime moins, je peux laisser de côté. Tandis que ce qui va me toucher, c'est... C'est assez subjectif, c'est des coups de cœur. C'est rarement des trucs dans l'air du temps, même si inconsciemment, là, quand on parle de titres justement liés à la nature, j'en ai publié plusieurs dans les dernières années, alors c'est quelque part, c'est là inconsciemment.
Oui.
Mais voilà, puis j'essaie toujours, en lisant un manuscrit, de mettre mes yeux d'enfant. D'enfant.
Oui,
toujours.
Ça, c'est intéressant.
Toujours.
Quand vous écrivez, qu'est-ce qui vous alimente? Qu'est-ce qui vous inspire?
Bon, tout.
Comment les thèmes qui sont abordés dans vos albums vous viennent, vous dites tout? Moi, je pense à Peter le chat debout.
Oui.
Joseph Phipps.
Oui.
Le grand livre des petits trésors, Le vaillant petit gorille, L'éléphant de l'ombre, Au-delà de la forêt, qui a été traduit, on en a parlé.
C'est souvent des thèmes, mais personnels. Ce sont souvent des questions qui m'interrogent comme adulte, qu'on prenne Au-delà de la forêt, qui est sur la persévérance, la solidarité, L'éléphant de l'ombre, sur le chagrin. Je dirais que c'est des thèmes qui m'interpellent comme adulte, que j'essaie de trouver une façon de transposer ces thématiques-là dans des histoires que les enfants vont comprendre.
Oui.
Alors, ça part de réflexions personnelles.
Des valeurs, en fait, qui sont importantes pour
nous. C'est vrai.
Aussi.
Oui, oui, des valeurs, des thèmes, des questionnements. Puis
Et moi, je m'en voudrais de ne pas parler de ce que vous publiez tout bientôt, c'est Comme des géants, qui est écrit par Marie Fradette.
Oui.
Sur les traces de l'album québécois. Qu'est-ce qu'on peut dire de cette anthologie?
Quel beau projet! Quel beau projet! On doit quand même dire qu'une anthologie, des fois, on essaie, Marie en parle aussi, elle essaie de rappeler qu'une anthologie, c'est un travail de curatif. Hein? C'est une sélection qui est aussi subjective.
Ouais.
Alors, comme critique et spécialiste de la littérature jeunesse, elle s'est donné l'exercice de sélectionner des titres, en fait, des albums, là, spécifiquement des albums écrits et illustrés par des créateurs québécois depuis le début.
On l'a reçu à l'émission l'an passé pour parler de ça.
OK, parfait, c'est ça. Alors, elle a fait une sélection de 80 titres, disons, principaux, plusieurs autres titres, là, c'est plus de 300 titres qui, au total, qui sont présentés, là, de façon plus détaillée que d'autres. Mais elle fait aussi une présentation par décennie. Alors, on met en contexte aussi la production de chacune des décennies en partant de 1940 à aujourd'hui.
Oh, et c'est une longue période quand
même. Oui, et c'est un ouvrage qui a 220 pages au total.
Alors, et moi, je mentionne que les gens intéressés peuvent s'inscrire à une classe de maître avec vous pour souligner d'abord les 10 ans de Comme des géants et la parution de Sur les traces de l'album québécois. Vous allez y parler de votre métier d'éditrice, vous allez vous entretenir avec Marie Fradette. Et c'est animé par Marlène Landry chez Gallimard Jeunesse et ça va avoir lieu le 24 octobre de midi à 13h sur Zoom et sur le site de l'émission, on met le lien pour que les gens s'inscrivent.
Oui, j'ai très hâte.
C'est la tradition, Nadine, à Imagémo, à voix haute, on invite les invités à nous proposer un de leurs coups de cœur littéraire jeunesse. En terminant, est-ce que vous avez une suggestion pour nous?
Oui, j'ai une suggestion qui n'est pas une nouveauté parce que la nouveauté prend tellement de place.
Oui.
Alors, c'est un album jeunesse qui, pour moi, est un album qui est parfait. Alors, c'est, originalement écrit en anglais, c'est The Gruffalo, Le Gruffalo, qui est paru il y a, mon Dieu, plus de 20 ans, je pense, maintenant.
Oui, ça
qui
fait
a eu un succès immense à l'international.
Oui.
C'est un conte, je dirais, fable, comme j'aime moi-même en écrire, tout en rime, à hauteur d'enfant. Où la ruse est un peu au centre là, d'un dialogue entre une souris et un renard. La souris, très rusée, va déjouer le renard là, en imaginant, en fait, en présentant cette créature qui est le Gruffalo, qui, au début, est une créature imaginaire, mais qui, on va au fil de l'histoire, finalement, qui va prendre forme dans le réel. Mm-hmm. C'est drôle, c'est fin, c'est intelligent, c'est tout en rime, ça, c'est un exploit.
Ouais.
Très difficile d'adapter en français, d'ailleurs, même si elle est très bonne, l'adaptation. Et je trouve que c'est un bel exemple d'autrice, en fait, Julia Donaldson, qui tient compte toujours de son lecteur. C'est ce que j'essaie aussi de faire, je crois, dans mon métier d'éditrice et comme autrice moi-même, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'albums qui sont publiés qui, selon moi, sont souvent des visions un peu d'adultes sur la jeunesse, sur ce qui touche les enfants. Puis, comme nous, je pense que les enfants, ils aiment être surpris, ils aiment avoir peur, ils aiment être divertis, ils aiment avoir de la peine, de vivre des émotions fortes.
Mais à hauteur d'enfant.
Tout à fait.
C'est ça.
Et tout est possible en plus dans le livre jeunesse. On peut imaginer absolument tout.
Alors
le Gruffalo.
Merci, le Gruffalo. Merci pour cette suggestion. Les auditeurs vont pouvoir la retrouver sur le site de l'émission, ainsi que le lien vers votre site web, celui des maisons d'édition et les titres des livres qu'on a mentionné. Je voudrais vous remercier, Nadine Robert, pour cette rencontre. Merci pour les choix que vous faites et pour les riches plaisirs que vous offrez aux lecteurs.
Bien, c'est un grand bonheur pour moi aussi. Merci, Marie.
Mille fois.
Merci.
Je m'appelle Alexandre, j'ai 10 ans, et ma série de livres préférée dont vous êtes le héros est Loup solitaire parce qu'il y a de l'action et du combat.
Je m'appelle Léa, j'ai 10 ans. J'aime les livres dont vous êtes le héros parce que c'est toi qui choisis la fin.
Les actuels littéraires!
D'autres idées de lecture et de sorties littéraires, pour tous les liens, c'est sur le site de l'émission. Dimanche prochain, le 22 octobre, à Marie raconte, l'autre émission que j'anime à Canal M, je lis Chevalier chouette de Christopher Denise, des éditions Kaléidoscope pour la version française. Chouette, petit oiseau courageux et déterminé, voudrait tant devenir un vrai chevalier. Mais son rêve semble impossible, vu sa petite taille, jusqu'au jour où tout s'aligne pour faire de lui un vrai héros au grand cœur, persévérant et ingénieux. On en écoute un extrait. Souvent, les autres chevaliers s'endormaient au lieu de veiller. Mais cela ne dérangeait pas Chouette. Seul sur le chemin de ronde, il avait enfin l'impression d'être un vrai chevalier. Dans la bulle du centre, Chevalier Chouette s'est assis sur un tabouret devant le feu dans la tour de guet. Bien éveillé, il se fait griller une guimauve au bout de sa lance. Il en a tout un panier en réserve pour la nuit. Tout est tranquille. Un soir, pourtant, par une nuit très sombre et très, très silencieuse, Chouette entendit un bruit. Ouish! Mais qu'est-ce que c'est? Alors, pour connaître la réponse, il faut vraiment être là le 22 octobre. Présentement, soit du 14 au 21 octobre prochain, c'est la semaine des bibliothèques publiques. Rendez-vous sur le site de votre bibliothèque pour voir la programmation. Du 19 au 22 octobre se tiendra le Salon du livre de Dieppe au Centre des arts et de la culture de Dieppe au 331 avenue Acadie, Dieppe, au Nouveau-Brunswick. Du 26 au 29 octobre aura lieu le Salon du livre afro-canadien au Collège de la Cité au 801 Promenade de l'Aviation à Ottawa. Samedi 21 octobre ont lieu les Pyjama Contes avec Katia Courteau, qui nous livrait sa chronique Coup de cœur de libraire il y a deux semaines. Et donc, les Pyjama Contes, c'est à la librairie Le Port de Tête, au 222 rue Mont-Royal, à Montréal, et ça revient toutes les deux semaines. Mercredi 25 octobre, de 18h à 19h30, auront lieu les Contes du Caveau, un spectacle de contes d'horreur avec le conteur Paul Bradley. C'est à la Bibliothèque des Jeunes de Montréal, au 4121 de la 42e rue à Montréal. C'est dans le quartier Saint-Michel et c'est gratuit comme toutes les activités qui se tiennent à la Bibliothèque des Jeunes de Montréal. Pour des informations, on compose le 514-276-7309 et le lien est aussi sur notre site. Samedi 28 octobre, ce sera l'heure du conte d'Halloween avec Tania Baladi pour les enfants de 3 à 7 ans. C'est gratuit sur inscription. C'est à la bibliothèque d'Hochelaga, au 1870 rue Davidson à Montréal. Et je vous lis ce qui est indiqué sur le site. Voyage à travers des histoires fabuleuses, singulières et un tout petit peu effrayantes lors de cette heure du conte interactif sur le thème de l'Halloween. Rejoins-nous dans ton plus beau costume. Alors, les inscriptions se font sur place ou par téléphone au 514-872-3666. Les listes préliminaires jeunesse des Prix des libraires du Québec 2024 ont été annoncées le 27 septembre dernier à la librairie Verdun. Les libraires des comités de sélection recommandent 48 livres, 6 dans chacune des 8 catégories. L'annonce des finalistes aura lieu en novembre prochain. On surveille ça pour vous. Quelques nouvelles parutions, bien sûr, tous les liens sont sur notre site. Le 31 octobre, directement pour l'Halloween, au 400 coups, sera publié « Je te vois » de Francine Hébert. Les illustrations sont de Laurane Cantric et c'est pour les enfants de 7 ans et plus. Paru le 13 septembre chez Comme des géants, c'est la maison d'édition de Nadine Robert, avec qui on parlait tout à l'heure. Le papillon jaune, le texte et les illustrations sont de Alexandre Chateauquin C'est pour les enfants de 8 ans et plus. Le thème, c'est la guerre en Ukraine et l'espoir. C'est vraiment un très, très beau livre. Et c'est paru en août aux éditions de Lysatis, Le village dans la mer. C'est un texte et illustration de Félix Girard. C'est dans la collection Tournepierre dès 4 ans et on parle dans ce livre-là des changements climatiques.
Je m'appelle Anaïs, j'ai 10 ans. J'aime lire les livres de Michel Hénan et en particulier à deux Seigneurs parce que ça mélange le profil émotion et animalier du lecteur.
Allô, je m'appelle Yali, j'ai 10 ans. J'aime les livres dont vous êtes le héros parce que c'est toi qui construis ton aventure.
Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je remercie les invités et les collaborateurs d'aujourd'hui, David Bessette et ses élèves de 5e année, Romy Blais, Éloi Osborne, Léa Otis et Émile Tremblay de l'École Notre-Dame-du-Rosaire à Sherbrooke, Marie Barguirgian pour sa chronique, Nadine Robert, autrice et éditrice, Michel Brûlé pour le soutien à la recherche, Mathieu Tessier en régie, au montage et à la mise en onde, et Jean-Sébastien Laliberté, chef diffusion technique à Canal M. Je vous souhaite des lectures captivantes et on se retrouve, je le souhaite, dans deux semaines.